Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir ma belle.
Émilie, votre choix de l'actu ce soir?
Un texte qui aurait dû être débattu à l'Assemblée cet après-midi, l'interdiction de la corrida, projet auquel Aymeric Caron renonce pour le moment.
Pour le moment, mais en tout cas, il a ouvert le débat et notre invité, dans un instant, va nous expliquer pourquoi il défend cette tradition. C'est le 69e matador de taureau français, Raphaël Rocoul. Il est monté à Paris, il est venu à Paris avec 11 autres toreros pour défendre et parler de son métier et expliquer pourquoi cette tradition lui tient à cœur. Il sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story.
On a pu consulter le rapport de la sous-direction antiterroriste sur les derniers jours de Samuel Paty, un homme qui se sentait menacé. L'avocate de Samuel Paty s'exprime ce soir dans C'est à vous. Pour elle, l'État a failli.
Patrick, votre édito.
Un autre débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui, puisque c'était la journée des insoumis. Le droit à l'IVG inscrit dans la Constitution, enfin du moins c'est le vote qui a eu lieu à l'Assemblée avec un compromis assez rare entre la gauche et la majorité présidentielle.
Un vote auquel n'a pas pris part notre invité, sauf erreur de ma part.
Ah, si, si.
Vous y avez pris part?
Non, oui. Si, si, il y a une erreur de l'Assemblée.
Ah, il y a une erreur de l'Assemblée. Erreur,
mais oui, écoutez, oui, à l'instant de consulter le site de l'Assemblée, ça n'a pas été rectifié. Marine Le Pen s'est rectifié, mais pas vous.
Ah bon. Ben, c'est ça, j'ai voté à la place, je me suis trompé, j'étais au siège de Marine Le Pen, je me suis trompé, donc j'ai fait rectifier, c'est moi qui ai voté pour, et Marine qui était absente.
Ah voilà, donc je vous présente quand même Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Vous avez voté pour ou contre?
Pour.
Je vous remercie. Mathieu dans le 5 sur 5.
Beyoncé, nuance d'une icône culturelle. C'est un séminaire qui démarre dans quelques minutes à Normal Sup, rue d'Ulm, au pied du Panthéon. Un séminaire qui va durer 6 semaines, 6 jeudis d'affilée. On a interrogé les organisateurs, pourquoi ça à Normal Sup. Et puis quelques étudiants, bien sûr.
Pierre, dans votre œil ce soir.
Alors, c'est toujours pas Noël, mais les cadeaux s'accumulent. Ce soir, c'est un coffret qui regroupe tous les enregistrements live et studio de Barbara, qui nous a quittés il y a 25 ans. Je vous le présente tout à l'heure.
Et vous le présentez à Étienne Daho, qui est notre invité après 20h. Forcément, c'est une des femmes qui l'ont inspiré.
Ah oui,
Étienne Daho, qui ouvre ses archives personnelles dans un magnifique ouvrage, A Secret, Secret Book, qui illustre avec des archives personnelles des photos de sa jeunesse, son parcours. Voilà, d'Oran à aujourd'hui. Étienne Daho est notre invité après 20h. Il sera aux côtés de Charlotte Rampling, qui chante, qui nous propose un album de l'amour. Mais quelle drôle d'idée! C'est un album qui est sorti le 18 novembre, dont on adore rien que le titre et le reste également. Un dîner préparé ce soir par notre chef étoilé, Vincent Fabre-Félix, qui est chef à Annecy et qui est aux côtés de Bertrand. Salut à tous les deux.
Bonsoir Babette, bonsoir à tous. La fin de l'abondance ne touche pas tout le monde puisque ce soir notre chef nous prépare de la truite à l'oseille.
Bonsoir, donc oui, ce soir je vais vous préparer une truite avec de l'oseille et de l'ortie.
Ah, bah, gardez des orties de côté pour Monsieur Tanguy et Patrick puisque l'émission a bien démarré. On sait jamais, ça peut servir. Bonne émission.
Merci beaucoup à tous les deux, à tout à l'heure. C'est historique. Cet après-midi, l'Assemblée nationale a voté en faveur du droit à l'inscription de l'IVG dans la Constitution avec cette formule. La loi garantit l'efficacité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse.
Effectivité. Les femmes ne peuvent plus se vêtir comme elles le souhaitent. Nos enfants de France sont agressés par des bandes de voyous, la plupart du temps étrangers. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'inscrire dans la Constitution, après l'article 3, que la République ne reconnaît qu'une seule communauté, la communauté nationale.
Aujourd'hui, pour être au gouvernement, membre du gouvernement, il n'y a pas d'obligation de remplir les mêmes obligations en fait que celles pour être électeur, c'est-à-dire d'être de nationalité française. Donc il semble important de mettre dans la Constitution que pour être membre du gouvernement français, il faut être de nationalité française.
De grâce, est-ce que vous vous rendez compte du spectacle qu'on donne à l'extérieur?
Mais n'importe quoi.
Alors, petite erreur, on voulait vous montrer
le vote
sous les acclamations des élus insoumis et de la majorité présidentielle. Est-ce que vous êtes prêts en régie? Non,
bon, on va en parler.
N'est
et puis,
pas prête,
on
mais
verra
c'est un
après.
Vote historique, Patrick.
Voilà, vote historique, c'est ce qu'a dit Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis, après ce vote obtenu grâce à un compromis avec la majorité. Et vote historique a également renchéri Éric Dupond-Moretti dans un esprit de concorde jamais vu encore dans cet hémicycle. La gauche, le centre et le gouvernement, représentés donc par le garde des Sceaux, sont entendus sur une formulation commune à ajouter dans la Constitution à son article 66, juste après l'alinéa qui proclame, qui a été rajouté lors d'une révision qui proclame que nul ne peut être condamné à la peine de mort. Cette phrase, donc, la loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse. Adoption à une très large majorité, 337 voix pour, 32 contre, sous les acclamations qu'on n'a pas vues mais qu'on verra peut-être tout à l'heure des députés de gauche et du camp présidentiel, tandis que toute la partie droite de l'Assemblée, LR et RN, restait assis.
Si je me peux me permettre, on peut voir le vote et les acclamations tout de suite dans l'hémicycle.
Résultat du scrutin, votant 387, exprimé 369, majorité 185, pour 337, contre 32. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle.
Et comment a voté le Rassemblement national, finalement ?
Éparpillé, sous réserve des embrouilles de pupitre et des rectifications de vote. 38 pour, 23 contre, 13 abstentions et 15 qui n'ont pas pris part au vote, dont Marine Le Pen, qui était absente au moment du scrutin. Marine Le Pen qui avait son propre texte, on en parlait ici même hier, amendement qui a été taillé en pièces par Éric Dupond-Moretti, qu'elle a retiré pour saluer le compromis trouvé, mais que finalement elle n'a pas voté. Impossible donc de savoir ce que pensent vraiment les députés RN, parce qu'une majorité du groupe, dont les plus ouvertement anti-IVG, avait voté ce matin pour la suppression de la proposition des Insoumis, l'amendement présenté par Emmanuel Ménard, et donc contre le droit à l'avortement dans la Constitution. Et puis surtout, le RN a donné l'impression, surtout ce matin, que ça ne l'intéressait pas, en multipliant les amendements et les prises de parole hors sujet.
Nos femmes ne peuvent plus se vêtir comme elles le souhaitent. Nos enfants de France sont agressés par des bandes de voyous, la plupart du temps étrangers. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'inscrire dans la Constitution, après l'article 3, que la République ne reconnaît qu'une seule communauté, la communauté nationale.
Aujourd'hui, pour être au gouvernement, membre du gouvernement, il n'y a pas d'obligation de remplir les mêmes obligations en fait, que celles pour être électeur, c'est-à-dire d'être de nationalité française. Donc il semble important de mettre dans la Constitution que pour être membre du gouvernement français, il faut être de nationalité française.
De grâce, est-ce que vous vous rendez compte du spectacle qu'on donne à l'extérieur ? Avec ce genre d'amendements qui n'ont rien à voir avec ce texte, j'aimerais qu'une fois dans ce Parlement, il y ait un peu de dignité.
De nombreuses heures de débat pourront avoir lieu sur vos lubies essentielles, la préférence nationale, l'immigration incontrôlée, que sais-je. Là, nous parlons du droit des femmes et je pense que nous devons nous concentrer sur cela et que sur cela.
Le RN a aussi défendu un amendement pour que le président de la République veille à la sauvegarde de l'identité et du patrimoine de la France. Voilà, les débats n'en sont pas sortis grandis.
Comment expliquez-vous que le RN arrive en ordre si dispersé pour ce débat autour de l'inscription de l'IVG dans la Constitution ?
Mais écoutez, il n'est pas en ordre si dispersé que ça, parce qu'il y a une majorité dans les votes que vous avez donnés. Il y a donc une majorité du groupe qui a finalement voté pour la constitutionnalisation
c'est
par rapport
moitié.
Au compromis.
Si on additionne les
c'est
pour et les
moitié,
abstentions...
38
oui, non, non,
pour...
J'ai calculé, ça fait 39 avec mon erreur, donc ça fait 55%.
Non, ça fait 38 avec votre erreur. Non, parce que Marine Le Pen non, a été comptée pour.
Alors, vous ne pouvez pas le savoir, mais j'avais la délégation de mon collègue Thomas Ménager. Donc ça fait 39, donc ça fait 55. Bah oui, mais je suis désolé, je vous explique quelque chose, mais ça ne change pas grand-chose à l'équilibre général. Donc il y a une majorité du vote qui finalement a voté la constitutionnalisation parce que le compromis qui a été trouvé effectivement suite au retrait de l'amendement de Marine Le Pen nous paraissait garantir en fait à la fois le maintien des délais qui avaient été prévus par la loi Veil et qui avaient été étendus entre 1975 et l'année dernière, et aussi la clause de conscience des médecins. Donc on a estimé, même si ce n'est pas une priorité, parce que je rappelle qu'en fait la position initiale du Rassemblement national, ce n'est pas de s'opposer au fait que l'IVG rentre dans la Constitution, c'est que ça n'était pas une priorité des Français. Je ne le sens d'ailleurs toujours pas comme prioritaire, même si j'ai voté pour, par rapport à d'autres débats, tout simplement. Voilà. Donc moi, je vais dire, je suis un peu étonné, parce que, en fait, la vraie question autour de la garantie de l'IVG en France, c'est la garantie d'accès aux soins, partout sur le territoire, c'est la garantie d'accès à la gynécologie, qui est un secteur médical extrêmement sinistré, vous le savez, aux sages-femmes, à la prévention et à l'éducation
d'où,
sexuelle.
D'où l'importance du compromis adopté. La loi garantit l'effectivité.
Absolument.
L'effectivité.
Absolument, c'était la suite de ma phrase. C'est que ce qui est intéressant dans l'amendement qui a été adopté, c'est qu'il y a la notion d'effectivité, que donc ça permet aussi d'ouvrir un débat sur l'accès aux soins sur tout le territoire, qui est quand même l'enjeu aujourd'hui principal.
Donc les 36 députés qui ont voté contre ou qui se sont abstenus, ils ne sont pas en raccord avec cette idée-là de garantir l'application de l'IVG en France.
Si, parce que ça, c'était le programme de Marine Le Pen sur lequel ils ont été élus députés. Dans le programme de Marine Le Pen, il y avait la défense de la loi Veil telle qu'elle a existé et qu'elle a été modifiée depuis, et il n'y avait pas la constitutionnalisation de l'accès à l'IVG, ce qui est d'ailleurs aussi la position de LR.
Donc vous rappelle... jouez sur tous les tableaux, quoi.
Mais non, pas du tout, monsieur. J'essaie de vous expliquer une position. Nous avons une position initiale, il y a un débat qui se tient. On répond à ce débat. Je vous ferai remarquer que vous avez concentré vos commentaires sur le Rassemblement national et c'est votre choix. Mais ce qui a bloqué la constitutionnalisation de l'IVG au Sénat, c'est pas le Rassemblement national, c'est LR. Et ce qui est important,
c'est un autre texte.
C'était un texte assez proche. D'ailleurs, c'est ce que M. Dupond-Moretti a dit en discussion générale, un texte assez proche de celui de Mme Panot des Insoumis. Mais l'important, c'est quoi? C'est que si la formulation retenue est consensuelle, parce que il faut que vos téléspectateurs sachent que ce n'est que le début du processus. Maintenant, il faut que la loi aille au Sénat. Il faut que le Sénat vote dans les mêmes termes cette loi s'il le souhaite. Et après, ce texte ira devant les Français en référendum.
Sauf si le gouvernement le reprend à son compte.
Absolument.
Et à ce moment-là, il n'y a pas de référendum.
Oui, moi, je préférerais que ça aille par référendum. Je pense que ce sera
Vous êtes pour un référendum?
Oui.
Qui pourrait éventuellement remettre en question le droit à l'avortement?
Je ne pense pas. C'est là où on est en désaccord avec l'analyse politique ici. Je pense qu'en France, et moi je m'en félicite, je pense que 90% des Français sont favorables
à la loi. Alors pourquoi faire un référendum?
C'est la Constitution.
Mais vous êtes favorable à un référendum, ce qui n'est pas...
Alors qu'il y a une autre solution.
Je préfère, mais parce que la doctrine du Rassemblement national et du mouvement national en général, c'est de consulter les Français dès qu'on le peut. Ça, c'est une constance, vous nous reconnaîtrez, c'est une constance de nos positions. On pense que les questions, en particulier sociétales et constitutionnelles, doivent toujours être tranchées par le peuple, puisqu'on avait proposé une modification de la Constitution pour que toute modification de la Constitution aille devant le peuple.
Soit soumise au référendum. Vous avez raison, la question, c'est d'accéder pour les femmes à ces possibilités d'avortement. Et il est toujours difficile pour certaines femmes d'obtenir un IVG, comme l'a confié Sarah Durocher du Planning Familial à Louis Amar et Anaïs Recouli.
On voit que déjà, il y a des mouvements anti-choix qui sont très présents et qui désinforment les femmes via des sites internet ou autres. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il y a une offre de soins qui diminue d'année en année. Et évidemment que les centres IVG, par exemple, ferment. En 10 ans, il y en a 130 qui ont fermé. Et donc, il y a moins d'offres. Le service public et l'hôpital public qui souffrent. Et ça fait un résultat catastrophique en termes d'accès. Je peux vous dire des exemples, par exemple, de femmes qui sont obligées de changer de département pour aller avorter, où c'est vraiment le parcours de la combattante, on le nomme comme ça. Et en plus, c'est très compliqué d'en parler pour les femmes parce que l'avortement, c'est toujours un sujet à part. Les femmes sont très culpabilisées encore et stigmatisées par, dans le cadre de leur parcours. Donc voilà, ça reste toujours un acte à part.
Faut-il rouvrir des centres d'IVG en France pour que dans chaque département, les femmes trouvent un centre qui leur permette d'obtenir un IVG?
Tout à fait, et il faut aussi redéployer notamment la spécialité gynécologique. Marine Le Pen avait souligné pendant la présidentielle qu'il y avait aujourd'hui un tiers des départements où il manque une des deux spécialités de gynécologie. C'est un très grave problème. Les femmes aujourd'hui ont une difficulté d'accès aux soins. Il faut aussi souligner que par rapport à la charge mentale, par rapport à la difficulté qu'elles ont au quotidien avec tout ce qu'elles ont à faire, que souvent elles sacrifient, il faut le dire, leur santé au profit de suite du reste de leur famille. Donc c'est un sujet important. Moi, une fois de plus, je veux qu'on revienne à l'essentiel. On va, si le processus va à son terme, on va passer devant les Français. Je pense que l'occasion, c'est pas tant de savoir si les Français sont pour ou contre l'accès à l'IVG, je pense que c'est l'occasion de remettre le système de soins au cœur du débat, son renforcement pour les femmes, et ça pourrait être un beau débat. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de sujets qui divisent la société française, vous le savez mieux que quiconque en traitant l'actualité au quotidien. C'est aussi un beau signal qu'on peut envoyer qu'aujourd'hui, toutes les forces politiques soient essentiellement pour l'accès à l'IVG et pour l'accès à la santé des femmes. C'est une bonne nouvelle, parce que pourquoi toujours vouloir insister sur nos divisions quand nous avons parfois des sujets d'union?
Patrick, vous vouliez aussi nous parler d'un autre vote, cette fois au Parlement européen.
Oui, vote hier d'une résolution qui qualifie la Russie d'État promoteur du terrorisme. Comme pour confirmer ce qualificatif, le site web du Parlement européen de Bruxelles a été la cible d'une cyberattaque juste après cette adoption, pendant que l'Ukraine subissait un nouveau tapis de bombes. On en a parlé, c'était justement l'objet de ce texte, dénoncer le terrorisme que représente le bombardement répété de cibles civiles, infrastructures énergétiques qui privent les Ukrainiens d'électricité et d'eau, mais aussi écoles et hôpitaux. La résolution a été votée, là aussi, à une très large majorité, à l'exception des eurodéputés du Rassemblement national, avec son président en tête, Jordan Bardella. C'est le seul groupe qui a voté en bloc, le seul groupe national sur les 58 contre, 18 parlementaires français, le Zemmourien qui est parti de chez vous, Nicolas Bay, et 17 des 18 élus du RN. Même l'extrême droite italienne, qui est au gouvernement désormais, a voté pour cette résolution. Pourquoi donc?
Parce que nous pensons que qualifier la Russie d'État terroriste ne...
Promoteur du terrorisme.
Promoteur du terrorisme ne fait qu'empirer la situation et...
Ah bon?
Aggraver les difficultés à arriver un jour à un cessez-le-feu, puisque le but quand même de tout ce que les États occidentaux doivent faire, en plus de défendre l'Ukraine, c'est qu'on arrive le plus tôt possible à un cessez-le-feu. Qualifier un État de terroriste, même si on est opposé... même si on y est opposé frontalement à lui, ça ne peut que aggraver les dissensions et les motifs aussi de refuser toute solution diplomatique.
Donc le Parlement européen et la totalité des gouvernements européens jettent de l'huile sur le feu.
Je pense qu'ils ont
avec ce vocabulaire et...
Oui, je pense qu'ils ont le tort de le faire. Je pense que la qualification que vous avez mentionnée relève d'une enquête de l'ONU, relève de la justice internationale le jour où elle sera saisie. Elle ne relève pas d'une qualification d'un Parlement et d'une qualification politique. Voilà, nous l'avons toujours dit. Et le fait de qualifier ainsi la Russie ne va pas aider à résoudre le conflit.
Vous pensez qu'il faut des enquêtes de l'ONU pour savoir d'où viennent les bombes qui tombent sur l'Ukraine en ce moment?
Non, mais de savoir si les actes de guerre commis en Ukraine relèvent du droit de la guerre ou sont des crimes de guerre. C'est ça à quoi sert la justice internationale, M. Cohen. On l'a soutenu. Je vous rappelle que tous les États ne font pas partie d'ailleurs de cette justice internationale. Les États-Unis n'y ont jamais participé. Voilà, bon, c'est d'ailleurs un problème.
Crime de guerre, la ministre des Affaires étrangères française parle régulièrement de crimes de guerre commis en Ukraine. Pour ces bombardements massifs contre Kiev, Lviv et plusieurs autres villes ukrainiennes.
Et Madame,
elle met aussi de l'huile sur le feu.
Je ne dis pas que ce ne sont pas des crimes de guerre, je dis que ce sera à la justice internationale de l'établir. Ce qui est la norme, normalement, pour ces conflits. Voilà, si la justice internationale ne sert à rien, il faut le dire. Si elle a été créée, c'est bien pour qualifier ces actes et juger, condamner le cas échéant, les responsables.
De toute façon, renvoyer dos à dos l'agresseur et l'agressé.
Mais pas du tout. Le fait qu'il y ait une justice internationale, c'est pas le fait de renvoyer. Des procédures qui sont établies l'ONU sert à ça, monsieur Cohen. Vous savez, l'ONU a été très affaiblie, pas seulement par la Russie depuis les 20 dernières années, non ? Si, l'ONU a été affaiblie quand même depuis les 20 dernières années.
Oui.
C'est quand même dommage que l'ONU ne soit plus une instance
capable... par la Russie et son usage du veto systématique.
Je n'ai pas dit...
qu'on parle du sujet de l'Ukraine et vous n'avez pas un mot, pas un adjectif pour qualifier l'attitude de la Russie.
Je vous ai dit que c'était un des actes de guerre qui pouvait être qualifié de crime de guerre par une enquête qui aura lieu. Et c'est une guerre, si vous voulez que... Donc, si je peux finir la phrase, puisque vous me posez la question, c'est une guerre évidemment illégale. Le fait que la Russie ait attaqué l'Ukraine est une guerre qui enfreint toutes les règles du droit international.
Hier, Marine Le Pen a estimé que la France devait arrêter de livrer à l'Ukraine des canons César. Si la France arrêtait de livrer des canons César à l'Ukraine, ce ne serait pas un très beau cadeau fait aux Russes et à Vladimir Poutine ?
Il a été établi, si vous voulez, que les livraisons d'armes de la France à l'Ukraine étaient marginales, pour ne pas dire autre chose. La position qu'a toujours défendue Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, c'est que la France doit jouer un rôle de puissance qui peut faciliter un cessez-le-feu. Voilà. Ça a toujours été notre position et je vous rappelle que c'était au début la position d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, ça a été dénoncé à plusieurs fois par plusieurs de nos partenaires européens et américains, le fait que la France promettait beaucoup et ne livrait pas beaucoup d'armes finalement.
Si les livraisons sont marginales, pourquoi vous voulez les arrêter?
Parce qu'on pense que puisqu'elles sont marginales, autant établir clairement que la France joue un rôle de puissance pacificatrice et d'équilibre.
L'argument de Marine Le Pen, c'est de dire que ces armements manqueraient à la France en cas de conflit. Donc si
c'est
marginal,
qu'on lui a posé la question.
Comment est-ce que ça pourrait manquer à la France?
C'est exactement ce qu'elle a dit.
Je sais, mais j'ai aussi écouté ce que dit ma présidente. Mais
donc on l'a bien compris comme vous.
Non, elle répondait à une question de Mme Ferrari qui lui demandait, il y avait un responsable qui avait dit lui-même que ces équipements manquaient. Elle a dit, est-ce que vous Vous êtes d'accord avec ce responsable que ces équipements, s'ils sont du côté machin, elle a dit oui, mais c'est donc, pas elle qui a affirmé cela. Elle le faisait en réponse à une position de quelqu'un d'autre. Il faut dire le contexte exact. Mais on a toujours été contre la livraison d'armes offensives. Mm-hmm. Donc on ne va pas changer de position. Ça a toujours été notre position. Pourquoi ? Parce que nous ne pensons pas qu'il faille soutenir la Russie, M. Cohen, mais nous pensons que le rôle historique de la France dans ce conflit,
c'est
comme dans d'autres.
De ne rien faire, ni d'envoyer d'armes, ni d'imposer des sanctions à
l'Ukraine. Comme dans d'autres. Si les sanctions, des sanctions utiles, des sanctions inutiles, les sanctions contre les oligarques, les sanctions contre le système bancaire, les sanctions contre les circuits intégrés, tous les équipements qui ne sont pas liés à l'énergie. On pensait que c'était des bonnes sanctions qui ont une efficacité contre l'économie russe. Nous nous sommes opposés aux sanctions sur l'énergie car nous pensions, et nous avons eu raison et je le regrette, parce que j'aurais préféré qu'on ait tort sur ce sujet-là, les sanctions sur l'énergie ont enrichi pour le moment le régime russe au lieu de l'appauvrir.
Émilie.
La FIFA fait volte-face aujourd'hui. Selon le quotidien britannique The Independent, elle autorise désormais les couleurs arc-en-ciel, symbole des droits LGBT+, dans les stades de la Coupe du Monde. Le Qatar aurait assuré à l'instance dirigeante que les supporters ne seront plus interdits de stade, que les drapeaux ne seront plus confisqués. Pourtant, jusque-là, plusieurs équipes avaient dû renoncer à porter ces brassards de soutien sous peine de sanctions sportives, ce qui avait d'ailleurs poussé l'équipe d'Allemagne hier à faire un geste très symbolique pour dénoncer le fait qu'ils n'avaient pas le droit de s'exprimer. Est-ce que c'est une bonne chose que la FIFA est fini par céder ?
Oui, c'est une bonne chose que les sportifs aient retrouvé leur liberté d'expression, comme tout citoyen.
La FIFA n'a pas trop tardé ?
Si, mais je pense que ce qui sortira du scandale en fait, de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, c'est une remise en cause sans doute du comportement de la FIFA, comme il y a eu des problèmes avec le CIO. Bon, je pense qu'effectivement, il y a des grandes questions qui sont posées autour de la corruption et de l'intégrité de l'organisation des compétitions internationales, ce qui est dommage, puisque ça porte atteinte au sport, qui devrait au contraire rassembler tout le monde et donner des rêves à tous ceux qui en ont besoin. Donc je pense que c'est la question que ça pose. Moi, je suis content que les joueurs retrouvent leurs droits citoyens. Pourquoi ? Dans les deux sens. Les joueurs n'ont pas à être forcés à faire quelque chose dont ils n'ont pas envie, comme tout citoyen. Par contre, ils doivent pouvoir le faire s'ils ont envie.
Et vous attendez un geste des Français ?
Pardon, excusez-moi.
Vous attendez un geste des Français maintenant ?
Un
geste des Bleus ?
Ah pardon, non, moi, j'ai rien à attendre. Ce que je veux dire, c'est que les Bleus sont libres. C'est pas à un homme politique de demander à une équipe ou un sportif d'adopter un comportement. S'ils le font, tant mieux, ils ont le droit. S'ils le font pas, ils ont le droit aussi. Il faut faire attention parce que c'est aussi la question de la sincérité. Si on veut qu'une démarche politique de la part de joueurs soit sincère et comprise par tout le monde, il faut que ceux qui voient ce geste de l'extérieur sentent que c'est un geste sincère et pas un geste forcé.
Pierre.
Vous avez été élu député le 19 juin dernier et très vite, vous vous êtes illustré par une véritable passion pour les règlements de l'Assemblée nationale.
Rappel au règlement de M. Tanguy. Sur le fondement de quel article, M. Tanguy ?
Madame la Présidente, article 54, alinéa 6. L'article 50, alinéa 5. Article 58, alinéa 2. Article 70, alinéa 2. Vous avez la chance, Madame la rapporteure, de bénéficier à l'article 56, parce que moi je lis ce qu'on nous propose. Article 58, alinéa 3. Lorsque manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le règlement ou un fait personnel, ou si elle tend à remettre en question l'ordre du jour fixé, ou si un précédent rappel au règlement avait le même objet, le président lui retire la parole. Voilà, Madame la Présidente, vous m'avez...
Alors, Monsieur Tanguy, je vais vous retirer la parole au titre de ce même article 54.
Voilà, ça nous amusait.
C'est de bonne guerre.
C'est de bonne guerre. Le Journal du Dimanche vous a consacré un portrait cette semaine et un de vos collègues du RN témoigne anonymement en disant « Il est partout, moi je n'en peux plus ». Quand un autre ajoute « Il a du talent, c'est certain, mais peut-être devrait-il laisser un peu de place ». Vous leur dites quoi à ces anonymes ?
Bah, ils sont anonymes, je ne peux pas leur dire quelque chose.
Ils se reconnaîtront, ils entendront.
Je leur dis qu'ils savent très bien, puisque c'est sur le groupe WhatsApp du groupe qui nous permet d'organiser les débats, que toutes les heures, je demande qui veut s'inscrire pour parler. Donc,
Vous n'en faites pas un peu trop pour vous faire remarquer ?
Non, pas du tout. Sincèrement, non. Voilà. Bon, après, il faut se faire remarquer. J'ai été élu pour ça, j'ai été élu pour défendre les Samariens.
C'est pour ça que vous l'avez fermé aujourd'hui.
Comment ?
C'est pour ça que vous l'avez fermé aujourd'hui à l'Assemblée.
Alors, si vous voulez tout savoir, ce matin, j'étais consacré aussi à finaliser les lois de notre propre niche. Voilà. Mais je ne sais pas dire que je l'ai fermé, je ne suis pas sûr que ce soit très aimable. Mais
non, mais bon. Vous n'avez pas entendu. Ce
oui, c'est vrai, parce que justement, les autres voulaient s'exprimer. Il faut dire aussi, pour répondre Monsieur Lescure, qu'en fait, oui, que la session s'est ouverte sur toutes les lois financières et économiques et énergétiques qui sont mes marottes. Voilà. Il est vrai que sur d'autres lois, j'interviendrai moi.
Merci beaucoup Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme. Je rappelle que vous êtes président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Dans le reste de l'actualité, c'est le grand combat de l'antispéciste Émeric Caron, le polémiste élu député de Paris en juin dernier sous la bannière LFI. interdire la corrida au nom du bien-être animal, combat auquel il renonce finalement.
Et oui, coup de théâtre à l'Assemblée nationale, Émeric Caron a finalement choisi de retirer son projet de loi de l'ordre du jour pour en présenter un nouveau prochainement.
Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une fin, ce n'est qu'un début. Avec mes collègues de la France Insoumise, je vais déposer une nouvelle proposition de loi. Une loi transpartisane qui sera inscrite à nos débats dans le cadre d'une semaine de l'Assemblée. Et j'invite tous mes collègues de tous les groupes, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses dans chaque groupe à vouloir la fin de la corrida. Je vous invite, chers collègues, à ce que nous travaillions ensemble pour avoir une victoire collective. Qu'attendent de nous tous les Françaises et les Français ?
C'est ce qui s'appelle reculer pour mieux sauter. Il y avait en effet très peu de chances que son projet de loi soit adopté aujourd'hui. Plus de 800 amendements avaient été déposés par tous les partis de la majorité au Rassemblement national, en passant par la droite. Des amendements dont certains, il est vrai, ressemblaient davantage à des manœuvres d'obstruction qu'à de vraies volontés de débattre. Exemple, celui déposé par un élu du Rassemblement national, Yoann Gillet, qui proposait de remplacer le titre de la proposition portée par Émeric Caron, un petit pas pour l'animal, un grand pas pour l'humanité, par imposer l'idéologie des mangeurs de graines aux habitants du sud de la France. Ils n'étaient pas les seuls d'ailleurs à vouloir changer le titre. Des députés Renaissance proposaient imposer un mode de vie parisien comme autre formulation. Autre amendement Renaissance toujours, continuer à torturer les taureaux, oui, mais pas en public. Or, les débats proposés par la France Insoumise devaient dans tous les cas s'arrêter à minuit. Battu d'avance, Émeric Caron a dénoncé un déni de démocratie au micro de Louis Amar et d'Anaïs Recouli.
On s'est retrouvé face à un déni de démocratie, face à de l'obstruction parlementaire. On s'est réunis tout à l'heure, ça nous a énormément peinés, coûtés, mais on a été obligés de constater cette évidence. Les débats, le vote ne pourraient pas avoir lieu avant minuit. Parce que vous savez que la particularité de cette niche parlementaire, c'est que ça s'arrête. Et au moment où je vous parle, il restait plus de 450 amendements qui étaient ou sous-amendements qu'il aurait fallu discuter. C'était à minima 24 heures de débat. 24 heures.
Il n'est pas le seul à être déçu. Plusieurs députés ont dénoncé le manque de courage d'Émeric Caron, empêchant que le débat puisse se tenir. Sûrement déçus aussi les défenseurs de la cause animale qui étaient cet après-midi devant l'Assemblée pour manifester contre la tauromachie.
Abolition ! Abolition ! Abolition !
La corrida relève d'une pure barbarie. Moi, je vous invite à regarder des images, à observer les gestes qui sont infligés à ces taureaux.
C'est abominable d'avoir un animal seul, seul contre tous.
En plus, bon, il y a les écoles taurines où on apprend à des enfants très jeunes à massacrer des petits veaux.
Moralement, est-ce que nous pouvons continuer à accepter que de tels sévices soient infligés à des animaux pour nous divertir ? Parce que c'est ça le problème de la corrida, c'est que c'est un divertissement.
Bonsoir Raphaël Roucoul.
Bonsoir.
Dit El Rafi, c'est votre nom de torero. Vous êtes devenu en juin 2021 le 69e matador français. Hier, avec 12 autres toreros, vous avez fait le déplacement jusqu'à Paris pour défendre votre métier. Finalement, la proposition de loi n'a pas été débattue. Pour l'instant, la corrida n'est pas menacée. Vous êtes soulagé ?
Oui, très soulagé et heureux que mes libertés, celles des aficionados de chez moi et tous ceux qui aiment la tauromachie soient respectées.
Le torero, par définition, c'est celui qui met le taureau à mort. Ce qui est paradoxal, c'est que vous le dites vous-même, vous êtes un amoureux de cet animal, par-dessus tout, avant tout. Comment est-ce qu'on peut aimer, respecter un animal et le tuer ?
Bien sûr, torero, pour moi, avant d'être celui qui tue le taureau, c'est celui qui le taurait. C'est celui qui fait essayer de faire passer une émotion et une expression à un public qui a une sensibilité et qui vient voir une corrida pour avoir certaines émotions. Après, oui, je comprends, moi, tout à fait, qu'aujourd'hui, on ait du mal à comprendre que la tauromachie, on puisse aimer un taureau et le tuer. Tout simplement parce que moi, je ne respecte pas le taureau et je n'aime pas le taureau de la même manière que je respecterais des animaux de compagnie, mon chien chez moi, mon chat. Je le respecte parce que je sais que je mets ma vie en jeu et que lui, il peut m'ôter la vie. Et c'est un respect tout à fait différent de d'autres espèces d'animaux domestiques. Donc, c'est difficile comme ça à expliquer quand on ne connaît pas la tauromachie, mais il faut concevoir que c'est un tout autre respect.
Au cours d'une corrida, vous utilisez des piques, des banderilles, une épée. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse vous dire que c'est de la torture avant une mise à mort ?
Non, parce que pour moi, la torture, c'est laisser un animal dans un environnement qui n'est pas le sien. C'est tout le contraire du taureau de combat. Le taureau de brave, il est dans une expression. Il s'exprime jusqu'à la fin de sa vie, puisque c'est dans sa génétique de s'exprimer et de combattre jusqu'à la mort, chose qui n'est pas le cas d'une autre espèce domestiquée. Pour moi, la torture, c'est ça. C'est d'enlever un animal de son état naturel, son milieu naturel, et de le forcer à faire quelque chose. Le taureau, lui, il combat et on ne le force pas à combattre. C'est dans ses gènes. C'est ça la différence pour moi.
Est-ce qu'une corrida sans mise à mort, ce serait possible, envisageable ?
Non, parce que la tauromachie, les gens ne viennent pas chercher la mort dans la tauromachie, c'est quelque chose de plus profond que ça. Mais sans la mise à mort, ce serait une hypocrisie, finalement, de voir des corridas sans mise à mort comme au Portugal, où on ne tue pas le taureau à la fin, et on le fait rentrer dans le tauril, là où on réceptionne les animaux après les corridas, et on le tue d'une balle à la tête, comme un autre bovin qui servirait à faire un beefsteak. Et finalement, c'est plus le taureau que nous, on glorifie, mais c'est un produit. Et c'est là la différence de la tauromachie avec une production bovine où je veux dire, il y a 3 millions d'animaux qui sont tués tous les jours en France pour la consommation humaine, qui sont élevés et tués pour les consommer. Nous, on donne du sens à la vie du taureau brave et on donne du sens à sa mort, on la glorifie. Et c'est tabou, mais je le comprends parce que la société, c'est un débat qui est tabou. Et c'est pour ça que je suis là et que j'essaye de venir l'expliquer avec une ouverture d'esprit et avec simplicité.
La proposition de loi d'Émeric Caron, il y a renoncé, elle n'a pas été soumise au vote. Il n'empêche, il a un message pour vous au micro de Louis Amar et Anaïs Recouli.
Voilà ce que je lui dis aux toreros, soyez raisonnables. Acceptez le fait que la corrida est une cérémonie de torture absolument abjecte sur un animal. Une cérémonie qui n'est plus acceptable au XXIe siècle en France, qui n'est pas en accord avec nos standards moraux. Une exception à la loi qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être, puisque comme vous le savez, la corrida en réalité est déjà interdite en France depuis 1850. Depuis 1850, et nous sommes en 2022, et ça se déroule encore dans quelques villes. Est-ce que ça vous paraît normal ?
Qu'est-ce que vous répondez à Émeric Caron ?
Mais c'est vrai que...
C'est vrai que c'est une dérogation à la loi.
C'est une dérogation à la loi dans les régions où il y a eu une tradition taurine, des racines taurines, depuis plusieurs centaines d'années. C'est-à-dire que oui, c'est une tradition qui est espagnole et qui déroge à la loi en France, mais elle s'est implantée dans des régions taurines, avec une tradition taurine, elle ne s'est pas implantée dans d'autres régions. Donc nous ne sommes pas les imposteurs de la culture taurine espagnole.
La mort d'un animal pour le plaisir des spectateurs choque les Français. 74% sont favorables à l'interdiction de la corrida. C'est un sondage qui a été publié le week-end dernier dans le journal du dimanche. Elle est encore plus forte, cette opposition, chez les moins de 25 ans. 90% d'entre eux y sont opposés. Vous avez 23 ans. Est-ce que vos amis... les jeunes de votre âge comprennent votre métier, votre passion ?
Ils le comprennent quand je leur explique et quand eux font la démarche de me poser la question. Et moi, j'essaye d'expliquer à tous les jeunes de mon âge et à ceux qui veulent bien m'écouter. Ma sœur vit à Paris, je ne parle pas qu'avec des gens de chez moi, je parle avec des gens d'autres régions. Et quand j'essaye de leur expliquer les choses et de leur expliquer quel est mon métier, en quoi il consiste, quels sont les tenants, les aboutissants de la tauromachie, pourquoi on taurait, pourquoi on se met devant un taureau aujourd'hui, je ne prétends pas les convaincre en disant ça, je ne prétendrai jamais, je n'aurai jamais la prétention de dire je veux que tu sois aficionado. Moi, ce que je veux juste te dire, c'est comprends-moi, comprends ma passion, mon métier, et après, libre à chacun d'avoir la sensibilité qu'il a et de dire j'aime ou non la tauromachie, c'est là la différence. Mais au moins, fais la démarche et un pas en avant en disant je vais essayer de comprendre et après je me forge ma propre opinion. Moi, c'est tout ce que je demande. Et les gens qui font ça et qui ont cette démarche envers moi, je leur tire mon chapeau et je leur dis félicitations.
Patrick ?
Émeric Caron se présente comme un défenseur des animaux. Est-il exact, comme on l'entend souvent dans la bouche des défenseurs de la tauromachie, que ces races-là de taureaux de combat n'existeraient pas s'il n'y avait pas de corrida ?
Tout à fait. Et c'est d'ailleurs les premiers défenseurs de la cause animale. Et moi, je me considère comme un défenseur de la cause animale. Et pourtant, je suis matador au taureau. Je conçois que ça puisse choquer aujourd'hui que je dise ça sur un plateau
de
télévision.
Mais paradoxal.
Et la race, les miouras, tout ça, ça s'éteindrait s'il n'y avait plus de corrida ?
Complètement. Parce que qu'est-ce qu'on offrait des taureaux de combat demain s'il n'y avait plus de corrida ? Qu'est-ce qu'on en ferait ? On en ferait de la viande ? Non. C'est pas productif, ça ne fait pas assez de viande pour le temps qu'on y implique et l'argent qu'on y implique. Qu'est-ce qu'on en ferait ? On ferait des zoos ? Non, on ferait pas de zoos parce que c'est des animaux qui sont presque à l'état sauvage, donc ça n'a pas d'avenir. Et c'est les éleveurs qui se lèvent le matin, qui donnent à manger à leurs taureaux et qui continuent à les faire manger lors des pandémies et lorsque c'est encore difficile. Pour moi, c'est eux les premiers animalistes.
Et c'est la race de taureaux et toute une biodiversité autour.
Bien sûr qu'il protège. Ouais. Chez nous, la Camargue, les Bouches de l'Aude, les Garrigues languedociennes, là où il y a le taureau de combat et le taureau Camargue, mais le taureau de combat aussi, il protège toute cette biodiversité-là. Pourquoi ? Parce qu'il empêche que l'homme vienne s'introduire dans son milieu naturel. Le taureau de combat, c'est des un hectare par animal, c'est unique dans une production bovine, ça n'existe pas, je ne pense pas que ça existe, ou alors très peu, dans la production animale. Et à travers ça, il y a tout un parc ornithologique en Camargue qui est préservé. Il y a des espèces, une faune, une flore. Donc quand on défend la tauromachie, on défend non seulement la corrida, mais pas que ça, on défend aussi une biodiversité, un biotope, une écologie et une économie et une race qui est le taureau de combat.
La corrida vient d'Espagne, vous l'avez dit tout à l'heure, et pourtant elle y a été interdite par le Parlement régional de Catalogne en 2010.
Ce soir, la tauromachie a tiré sa révérence en Catalogne. Elle sera interdite dans la région à partir du 1er janvier 2012, après le vote d'une loi d'initiative populaire signée par près de 200 000 personnes en 2009. Au même moment, les militants anti-corrida, eux, savouraient leur victoire.
La corrida a ensuite été réautorisée en 2016, et malgré cela, aucune corrida n'a été organisée depuis, car c'est trop polémique, pas assez rentable. Alors si même dans le pays de la corrida, personne ne veut y assister, est-ce qu'il ne faut pas penser à arrêter? Est-ce que ce n'est pas d'un autre temps?
Non, parce que je vous assure qu'en Espagne, le pays de la corrida, il y a beaucoup de personnes qui assistent aux corridas. La Catalogne, c'est quelque chose de particulier. C'est une région qui veut son indépendance, qui se détache de toutes les cultures taurines, de toutes les cultures espagnoles. Et lorsqu'on a arrêté la corrida en Catalogne, un des agents et un des impresarios des arènes de Barcelone n'a pas voulu continuer à faire des spectacles parce que la rentabilité d'autres spectacles était plus importante, tout simplement.
Aujourd'hui, on a parlé des dérogations. En France, les corridas sont organisées dans une cinquantaine de villes, mais le chiffre baisse, vous le savez, d'année en année. Depuis 2005, 28 villes taurines ont décidé d'arrêter ces spectacles sans qu'il y ait eu vraiment de bronca dans ces villes. Et même à Nîmes et Arles, vous allez entendre, la corrida, mais vous devez le savoir, fait de plus en plus débat.
Moi, je trouve que c'est quelque chose qui existe depuis des années, donc non, pour moi, c'est très bien.
Non, moi, je suis contre. Mettre un animal pour le tuer, juste pour le spectacle, je trouve ça horrible.
C'est ancestral et que ça existe depuis des années. Mais bon, c'est pareil, tuer un animal, moi, ça me perturbe.
Ça ne me choque pas.
Ça ne me choque pas que pour le plaisir, on torture et on tue des animaux.
Tout me dérange, tout. Les banderilles, les picadors, les chevaux qu'on abîme. C'est tout l'ensemble qui est horrible.
Non, il y avait quand même des pour et des contre. Mais vous savez aussi que le centre de tauromachie de Nîmes a vu ses inscriptions baisser. Est-ce que, dans votre tête, vous êtes jeune, vous ne pensez pas que cette tradition peut se perdre au fil des ans, au-delà de la loi et
alors,
du débat?
Les jeunes dans les écoles taurines, et moi je sors de l'école taurine de Nîmes, je peux vous dire que cette année il y a presque 20 élèves, et c'est une des générations où il y a le plus d'élèves dans les écoles taurines, parce qu'ils s'identifient à une culture. Ensuite, excusez-moi, j'ai oublié la fin de votre question.
Non, c'était, est-ce que vous ne pensez pas que cette tradition va aller
se perdre ? Si cette tradition, elle va se perdre, et si c'est une culture qui va se perdre, pourquoi vouloir nous interdire de nos libertés si elle va se faire naturellement ?
Laissez-le. Mais vous pensez que c'est le cas ?
Moi, je pense que dans l'absolu, si on parle dans des centaines d'années, tout change et tout se perd. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, la corrida a encore de belles années devant elle. J'en suis persuadé parce que je vois que ça intéresse et que tous les gens à qui j'en parle sont intéressés et tous développent une sensibilité différente. Mais ça intéresse. Et moi, je pense qu'en 2022, si on fait encore des corridas de taureaux, là où il y a beaucoup de choses qui ont été abolies avant et beaucoup de choses qui sont barbares et que moi je ne cautionne pas non plus, en 2022, s'il y a encore des corridas et qu'il y a les arènes qui se remplissent lors de nos férias, c'est peut-être qu'il y a quelque chose derrière qui est plus profond qu'une simple torture et une simple barbarie.
Merci beaucoup Raphaël Rocoul. Rafi, 69e matador de taureaux français. Vous restez avec nous pour commenter le reste de l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouefsi. Mohamed, de nouveaux éléments dans l'enquête sur l'attentat dont a été victime Samuel Paty.
Oui, un rapport de la sous-direction antiterroriste dévoilé par Le Parisien et France Info et que nous avons pu consulter décrit minutieusement les derniers jours de Samuel Paty et son comportement lors de ces journées laisse mesurer l'angoisse qui l'étreignait alors.
Samuel Paty dissimule son visage quand il sort du collège. Il met une capuche, il met un bonnet, des lunettes de soleil. Il demande à ses deux collègues de le raccompagner en voiture. Il leur demande même d'être posé un petit peu avant chez lui, par précaution là aussi. Pour autant, il ne s'étend pas sur les menaces qui pèsent sur lui, mais l'un des profs dira, je pense clairement, qu'il avait peur pour sa vie.
L'un de ses collègues profs qui avait raccompagné Samuel Paty un soir a raconté aux enquêteurs ne l'avoir pas reconnu. Il avait peur, il cachait son visage. Un autre abonde dans le même sens, il tournait en rond dans la salle des profs. Il avait des craintes pour sa vie. Cet enseignant ne se trompait pas. Le 14 octobre, deux jours avant sa mort, Samuel Paty effectuait des recherches sur Internet pour mesurer l'ampleur de la menace.
Bien sûr, il est inquiet, il fait ses recherches sur Google, sur les menaces, les troubles à l'ordre public au moment où il dépose sa plainte. Et puis deux jours avant son assassinat, là, il cherche sur Google, il tape son nom, Samuel Paty. Il tape aussi la polémique et puis bah, il doit voir forcément qu'il y a déjà ces menaces. Donc on voit déjà l'inquiétude qui est en lui.
Le 16 octobre, Samuel Paty ne trouve personne pour le raccompagner en sortant des cours. Il se résigne alors à rentrer à pied. Dès sa sortie du collège, il rabat la capuche de son manteau sur sa tête afin sans doute de se dissimuler. On apprendra plus tard que ce jour-là, dans son sac à dos, il y avait un marteau.
Vous et moi n'allons pas au travail avec un marteau dans notre sac. Je pense qu'il faut quand même réaliser le degré d'épuisement moral et de panique peut-être, de peur, de terreur qu'il faut avoir pour... plus, c'est pas anodin, il travaille avec des collégiens, il travaille avec des enfants, mais pour mettre le matin avant de partir de chez soi un marteau dans son sac. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est effroyable, c'est terrifiant d'en arriver là.
Samuel Paty n'aura pas le temps de se défendre. Le 16 octobre 2020, il est sauvagement poignardé avant d'être décapité par un réfugié russe d'origine tchétchène, un attentat islamiste. Deux ans après les faits, les juges d'instruction ont terminé leurs investigations. 14 personnes risquent d'être renvoyées aux assises, dont 10 pour complicité d'assassinat terroriste. Mais la famille de Samuel Paty a également porté plainte contre l'État pour non-assistance à personne en péril et non-empêchement de crime. Pour l'avocate de la famille, rien n'a été fait pour le protéger malgré les alertes.
L'État a failli à plusieurs niveaux. À partir du 8-9 octobre, on avait déjà des éléments qui étaient très concrets, qui auraient dû alarmer les autorités et qui manifestaient réellement une situation de péril ou de menace pour l'intégrité physique de Samuel Paty. Les institutions, que ce soit du côté de l'Éducation nationale ou du côté du ministère de l'Intérieur, auraient dû s'en saisir. Aurait dû réagir. Il y avait plein de moyens de prévenir Samuel Paty d'une atteinte à son intégrité physique et ça n'a pas été fait.
Merci beaucoup Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir Babette, bonsoir à toutes et à tous.
Mathieu, c'est une affaire sordide dont vous nous parlez, la plainte d'une patiente violée à l'hôpital.
Aux urgences de l'hôpital Cochin à Paris, après un malaise à la sortie d'un bar, elle est emmenée aux urgences. Un homme qui se trouvait près du bar et qui rôdait autour aurait singé un coma éthylique. Une fois aux urgences, lui aussi, il a réussi à retrouver la jeune femme dans l'enceinte de l'établissement. Elle vient de déposer une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui.
Nous avons déposé une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. En concertation avec mon confrère maître Laura Bécassis et ma cliente, car nous estimons que ce drame aurait pu être évité. Ma cliente, elle a eu un double traumatisme. Un traumatisme en raison des faits criminels dont elle a été victime, mais également au regard du lieu. Normalement, dans un établissement public de santé, on devrait se sentir en sécurité. On y vient pour être soigné, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Bonsoir. Bonsoir Guillaume Biet.
Bonsoir.
Chef du service police-justice d'RMC, c'est vous qui avez révélé cette affaire. L'hôpital Cochin confirme qu'il y a bien eu une agression ?
Exactement, l'hôpital confirme, mais n'en dit pas plus parce que c'est une enquête en cours. Il précise qu'il y a une analyse de la chronologie des événements internes qui est en cours. On est quand même un mois après les faits.
Alors on va reprendre les faits justement, Guillaume Biet. Il remonte à la nuit du 27 au 28 octobre dernier, devant le bar où elle a passé la soirée. Cette femme de 34 ans est victime d'un malaise.
Oui, elle a donc passé la soirée dans ce bar, elle a bu un peu d'alcool, elle se sent mal, elle sort de ce bar et à cause de son malaise, elle tombe, elle chute lourdement et elle perd connaissance, elle est victime d'un traumatisme crânien. Donc les pompiers sont appelés et avant que les pompiers arrivent, il y a effectivement quelqu'un qui rôde un petit peu autour d'elle. La sécurité du bar lui demande de s'éloigner. Les pompiers la prennent en charge et l'emmènent aux urgences de l'hôpital Cochin. Jusque-là, pour l'instant, tout est normal pour elle.
C'est le viol en question qui la réveille justement dans ce box où elle se trouve à l'hôpital. Ce sont ces cris qui font fuir l'agresseur.
Exactement. Au moment où elle ouvre les yeux, il y a cet homme qui est là, qui est en train de la violer. Donc ça la réveille, elle crie. L'agresseur prend la fuite Il emporte la carte bleue de la victime qu'il avait dérobée précédemment. Le personnel hospitalier essaie de le retenir, mais il n'y arrive pas. Il s'échappe de l'hôpital. Et il est arrêté par les policiers une heure après, dans l'arrondissement, dans le 14e arrondissement.
Il est retrouvé grâce à la carte bleue, en fait, qu'il utilise.
Pas tout de suite grâce à la carte bleue. Les soignants ont donné son signalement. Il y a aussi les enregistrements vidéo des caméras de l'hôpital. Et les policiers le retrouvent dans la rue. Il vient d'utiliser la carte bancaire dans une épicerie. Et il est arrêté, placé en garde à vue.
La question de la préméditation se pose déjà. Cet homme, vous le disiez, a été aperçu devant le bar. Comment est-ce qu'il fait pour se retrouver auprès de cette femme à l'hôpital?
Alors, c'est l'une des questions qui est au cœur de cette enquête. Ce qui s'est passé matériellement, c'est qu'elle a fait un malaise. Elle a été emmenée par les pompiers. Lui, il était là. Il rôdait autour d'elle. Le patron du bar dit qu'on aurait dit un mort de faim. C'est son expression. Il a fallu l'éloigner. Et une heure après, c'est lui, à son tour, qui fait un malaise, qui est étendu au sol. Prétendument malaise, coma éthylique.
Oui, qui pourrait être simulé, quoi, c'est ça.
Qui pourrait être simulé, parce que d'après le patron du bar, il ne sentait pas du tout l'alcool, et quand il est arrivé en garde à vue à peine quelques heures après, son alcoolémie était négative. Les pompiers sont quand même venus, ils l'ont emmené, et ils l'ont emmené dans le même hôpital, aux mêmes urgences, à Cochin. C'est là où il a retrouvé la jeune femme qui l'a agressée.
Alors, il n'avait pas d'alcoolémie négative, mais il était positif au cannabis et à la cocaïne, hein, je crois.
Il y a des traces de drogue dans son organisme. Oui.
Son profil pose question. Il s'agirait d'un sans-papier qui affirme être jordanien de 22 ans. Et selon vos informations, la police le connaît déjà sous 13 identités différentes.
Oui, parce que depuis qu'il est en France, il a déjà été arrêté plusieurs fois pour des petits délits à chaque fois, des vol à l'étalage, recel, usage de stupéfiants. Et en général, à chaque fois qu'il est arrêté quasiment, il donne une identité différente, un pays d'origine différent. Donc ses empreintes digitales ont été prises et dans le fichier des empreintes digitales, ces empreintes correspondent à 13 identités différentes.
Il avait déjà été accusé de viol.
Il a été entendu une fois pour une affaire de viol sur mineur, c'était en 2020 en Seine-et-Marne, mais c'est une affaire qui n'a pas abouti, qui a été classée sans suite, c'est ce que nous a dit le procureur.
Et là où l'affaire prend une autre tournure plus politique, c'est que le suspect est un résident illégal depuis 2019 qui fait déjà l'objet de 3 OQTF, 3 obligations de quitter le territoire français.
Oui, effectivement, 3 ordonnances ont été prises sous 3 identités différentes, et c'est tout le problème. Des identités qui sont a priori fausses, c'est pour ça que ces ordonnances n'ont pas pu être exécutées, qu'il n'a pas pu être expulsé jusqu'à présent. Néanmoins, là, très récemment, en septembre, il avait déposé une demande d'asile, donc il ne peut plus être expulsé tant que sa demande n'est pas examinée, mais lors de ces 3 OQTF, il était expulsable en 2019, en 2021, et la dernière remonte au mois de juillet dernier.
Dernière question qui se pose aussi au sujet de l'hôpital Cochin, j'y reviens. Est-ce qu'il y a eu un manquement de l'établissement ?
Alors, c'est l'objet de la plainte qu'ont déposée les avocats de la victime. Ils viennent de déposer hier une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui, contre X, mais en réalité, elle vise l'hôpital Cochin pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Pour eux, ils le disent, et pour leurs clientes, c'est inadmissible d'être pris en charge dans un hôpital public et de subir une telle agression. On est censé être soigné, disent-ils, en sécurité. Et ils ne comprennent pas ce qui a pu se passer. Donc, ils veulent que l'enquête s'intéresse également à ce volet-là sur l'éventuelle responsabilité de l'hôpital.
Merci Guillaume Biais, chef du service police-justice d'RMC, d'être venu ce soir nous parler de cette affaire. Après Donald Trump, un nouveau candidat à la présidentielle américaine?
Oui, le rappeur américain Kanye West qui s'illustre désormais surtout pour les polémiques qu'il suscite. Kanye West, auteur de moult dérapages misogynes, anti-IVG, on en parlait, antisémites de la pire espèce.
What is that? It's a photograph of a baby's ultrasound. It just represents life. I'm pro-life.
Jewish people have owned the black voice.
Over 50% of the executives in Hollywood, the CEOs, are Jewish.
Having a Jewish manager.
There's nobody that gets judged more than a straight white male.
Or being signed to a Jewish basketball team.
50% of black death in America is abortion.
Or doing a movie on a Jewish platform like Disney.
When I wore the White Lives Matter t-shirt, the Jewish underground media mafia already started attacking me.
Interview adjourned. Love you.
Il avait été banni de Twitter lui aussi et son compte a été réactivé à lui aussi avec un message en forme de nouvelle provocation. Shalom, écrit-il comme tweet de retour. Cette semaine, c'est un paparazzi qui le suivait que Kanye West a annoncé sa candidature.
Come to the office.
It's Milo right here.
How you doing,
Working
Milo?
Working on the campaign.
Oh, right on. So you are running.
Yes.
That's awesome, Kanye.
Simple.
Simple as that.
I know about it. You tell me, you know, yeah. You should say this, you should say that, you know. It's just we're moving towards the future.
Alors la première question, c'était pas vous allez à votre bureau, c'est est-ce que vous concourez pour The Office.
Running for Office, voilà. C'est être candidat.
L'homme qui te présente comme son directeur de campagne, Milo Yiannopoulos, présenté comme un journaliste, c'est surtout un polémiste d'extrême droite. Je vous cite quelques-uns de ses tweets ou de ses déclarations. La pilule rend les femmes folles et moches. Quoi qu'il fasse, les musulmans s'en sortent toujours, etc., etc. Il y a toute une littérature. Ça vous donne une idée du pédigré de l'ami de Kanye West. Par ailleurs, au sujet du rappeur toujours, le magazine Rolling Stone a recueilli des témoignages d'anciens collaborateurs du côté de sa marque chez Adidas. Une enquête interne serait en cours. Des témoignages qui font état d'un comportement toxique. Diffusion de vidéos porno en salle de réunion, diffusion de photos dénudées de son ex-femme Kim Kardashian lors d'entretiens d'embauche, entre autres discussions pornographiques imposées aux collaborateurs.
Un autre artiste américain qui devient un sujet d'étude à la prestigieuse École Normale Supérieure à Paris.
Et pourtant c'est plus léger. Beyoncé, bien sûr, vous l'avez reconnue. Elle fait désormais l'objet d'un séminaire à l'ENS Ulm, un cycle de 6 conférences. En réalité, Beyoncé nuance d'une icône culturelle. Rien que ça. Analyse, étude de son œuvre, de son style, de son image. Ce sont des étudiants de Normale Sup qui sont à l'initiative. Camille Schmitt et Audrey Payas les ont interrogés. Elles leur ont demandé tout simplement d'où leur est venue l'idée.
Il ne faut pas s'attendre à écouter des clips de Beyoncé toute la soirée, mais on va parler de Roland Barthes, on va parler de choses très compliquées. Mais c'est sympa de créer des ponts en fait, entre les personnes, entre les espaces sociaux.
Elle condense quantité de questions et de débats dans la société et la culture capitaliste hégémonique, l'afroféminisme, les littératures contemporaines et son rapport à l'image qui emprunte énormément à des disciplines comme l'histoire de l'art ou la sémiotique.
Qu'est-ce qui fait qu'en fait on a plaisir à écouter Beyoncé? Alors bien sûr, il y a le côté la musique, c'est entraînant, etc. Mais il y a aussi toutes les questions qu'elle aborde, les choses dans lesquelles les gens se reconnaissent. Et en fait, ça va ensemble.
Parole aux étudiants de Normale Sup au pied du Panthéon, en plus de leur cycle prestigieux, un peu de culture pop dans leur cursus. Écoutez ce qu'ils en disent.
C'est fantastique que l'ENS, en tant qu'une institution très classique et très réputée, fasse un séminaire sur une figure pop.
Je trouve ça bien que du coup, l'école s'approprie des sujets plus actuels et plus modernes. Quoi.
L'ENS est une école de recherche, donc ton objectif, c'est de s'intéresser à la culture telle qu'elle est en fait, dans le monde actuel, etc.
On n'est pas obligé de parler de trucs hyper bizarres, qui sont connus par deux personnes sur Terre. Quoi.
Je pense que même Beyoncé, même si c'est vrai que sa musique tente à fédérer et à faire plaisir au corps, c'est aussi une icône politique, c'est aussi une icône qui sait poser des questions d'ordre politique, d'ordre racial et qui a beaucoup de choses à dire.
Beyoncé, nuance d'une icône culturelle, ça commence ce soir. 6 conférences dans les prochaines semaines.
On termine avec une liste d'attente interminable.
Oui, je vous emmène près de Kobe au Japon. Kobe, connu pour son bœuf, une boucherie fondée en 1926, où vous pouvez déguster ces petites croquettes kromeski de bœuf de Kobe qui coûtent à peine 2 euros. Mais il y a une liste d'attente. Combien de temps d'attente?
1 an.
10 ans.
32 ans.
Ah oui,
32 ans d'attente à tel point que...
Je vais avoir du
Si vous la commandez, vous la recevrez dans 32 ans. Je voulais la commander, mais je ne savais pas quelle adresse mettre. Je ne sais pas où je serai dans 32 ans.
Ça sera froid hein, dans 32 ans.
Non, mais c'est une blague. Hein.
32 ans d'attente.
Bon, on peut s'inscrire ou pas?
On peut s'inscrire et on les recevra dans 32 ans. Il y a un client qui avait oublié qu'il les avait commandés et qu'on a reçu.
Merci Mathieu, merci beaucoup Raphaël Rocoul d'être venu ce soir nous parler de la tauromachie. Je crois que vous repartez en Espagne où vous habitez. Pour Toré notamment. Ouais. Merci beaucoup Guillaume Biet.
Merci.
Journaliste chef du service politique-justice, police-justice à RMC. Dans un instant, nos invités Étienne Dao, Charlotte Rampling, L'œil de Pierre, Le Vu et les actualités de Bertrand. On vous attend, à tout de suite. Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.